Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mukashi.audio. Salut, je suis Fayol et vous écoutez Bromance, un podcast produit par Mukashi Mukashi. Dans cet épisode, je reçois Caroline et Antoine, une fratrie dont l'histoire est, paraît-il, profondément singulière et humaniste. Alors je vous propose d'aller à leur découverte sans plus attendre. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fayol.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir Fayol.
Bienvenue dans Bromance, à vous deux.
Merci. Merci.
Alors, j'ai confisqué vos pièces d'identité et du coup, je vais essayer de les décrypter avec vous. Caroline, je vois que tu es née le 7 avril 1990.
Tout à fait.
Tu as donc 28 ans.
28 ans.
Tu vas sur tes 29.
Malheureusement, déjà.
Et je vois que tu as deux prénoms, dont un que tu partages avec, avec Antoine, ton frère.
Oui.
Marie.
Marie, effectivement, c'est un prénom classique dans la religion catholique qu'on
ouais.
donne en deuxième prénom.
Et Anissa, troisième. Ton troisième.
Oui, tout à fait.
Ok. Antoine, tu t'appelles Adrien Marie.
Tout à fait.
Tes deux prénoms.
Oui.
C'était une volonté de vos parents, j'imagine, de vous donner le même prénom, le même deuxième prénom, pardon.
C'est une histoire toute particulière, en fait, nos autres prénoms. Donc, c'est très drôle que tu aies voulu nos cartes d'identité. Puisque, donc, le premier prénom que j'ai et qu'Antoine a, Caroline et Antoine, c'est le prénom que nos parents nous ont choisi.
Mmh.
Et donc, Marie, on l'a en commun puisque c'est le prénom de la Sainte Vierge.
Ok.
Et le dernier prénom qu'on a, chacun, c'est les prénoms qu'on avait avant d'être adoptés.
C'est le prénom choisi par nos mères biologiques.
D'accord. Eh bien, écoutez, je suis ravie. L'entrée en matière n'était pas du tout voulue, mais c'est...
Okay.
Voilà. Donc, alors, pour revenir à Antoine. Antoine, tu es né le 6 février 1995. Tu as donc 24 ans.
C'est ça.
Si je ne me trompe pas. Donc, Caroline, tu es née aux Ulysses, dans le 91.
Oui.
Et Antoine, tu es née à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Et donc, ma deuxième question, c'était de dire, mais est-ce qu'il y a une explication logique au fait que vous ne soyez pas nés dans la même ville?
On a appris en regardant les cartes d'identité tout à l'heure, déjà. Enfin, moi, j'ai appris qu'Antoine était né à Épinay. Donc,
tu ne savais pas qu'Antoine était né à Épinay?
Je connais quand même un peu mon frère, mais
ouais.
ce genre d'infos, je n'avais pas.
Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on ne s'était pas posée.
Et toi, tu savais que ta sœur était née aux Ulysses?
Absolument pas.
C'est vrai?
J'ignorais totalement cette information.
Ah ouais?
Et alors, on passe pour des frères et sœurs complètement fake. Mais c'est juste que ce n'est pas le début de notre histoire.
D'accord. Alors du coup, Caroline, je te laisse enchaîner sur le début de votre histoire.
Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des enfants qui sont adoptés. On est tous les deux adoptés de parents différents, biologiques différents.
D'accord.
À 5 ans d'écart. Et on a été adopté par le biais d'une association qui recueille des enfants, mais aussi des femmes enceintes qui veulent faire adopter leur enfant. Et c'est notre cas à tous les deux. Donc voilà ce qui explique qu'on soit nés tous les deux dans des endroits différents et qu'on ne le sache pas, puisque le début de notre histoire commence à l'âge de 3 mois quand nos parents sont venus nous chercher dans une pouponnière.
D'accord.
Donc,
alors,
c'est de là que ça passe.
Du coup, j'ai plein de questions. Alors, quand tu dis à l'âge de 3 mois, qui a 3 mois à ce moment-là?
3 mois, c'est l'enfant qui peut être adopté, puisque à ce moment-là, l'âge légal d'adoption... Enfin, Antoine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais...
C'était 3 mois
c'était
et actuellement, c'est passé à 2 mois.
D'accord. Donc, on peut adopter un enfant à partir du moment où il a 2 mois aujourd'hui.
Tout à fait.
Et à l'époque, c'était 3 mois.
C'est ça.
Exactement.
Ok, donc... Tes parents viennent te récupérer en 1990, Caroline.
C'est ça.
Et tu as 3 mois.
Et j'ai 3 mois, voilà. Mes parents avaient fait une demande d'adoption auprès de cette association, donc la famille adoptive française.
Mm-hmm.
Et après, je crois, au moins 2 ans d'attente, ils ont eu une réponse favorable et un enfant qui les attendait, c'était moi, dans cette pouponnière.
D'accord.
Et c'est là le début de mon histoire.
Alors, ce que moi, je sais un peu de l'adoption, donc du coup, j'avais pas du tout potassé le sujet.
Bienvenue.
Ouais, merci. Si j'ai bien compris, il y a ce qu'on appelle un agrément qu'on accorde aux parents. et qui leur permet de pouvoir adopter soit sur le territoire français, soit à l'extérieur du territoire français. Et ce qui est très rare en France, c'est d'avoir l'agrément pour adopter en France. De ce que j'ai comme souvenir d'une copine qui a fait la même démarche. Et là, donc, si je comprends bien, vos parents, adoptent sur le sol français.
Sur le sol français, mais par le biais d'une association qui est française. Donc, de toute façon, dès le commencement des démarches, l'adoption se faisait en France ou... j'ai peur de dire des bêtises, mais Antoine connaît mieux que moi la famille adoptive française.
Non, quand même pas, mais non, jusque-là, ça...
Donc, oui, de toute façon, avec la famille adoptive française, l'enfant que tu adoptes est en France au moment où tu le reçois.
Ok.
Si j'ai les bonnes informations, en tout cas.
Ok, donc, toi, tu as 3 mois, et quand est-ce que se fait la rencontre avec Antoine ?
Alors, c'est une histoire que mon père aime bien romancer. Donc, je vais vous la raconter avec ma version et peut-être un peu celle de mon père aussi.
Ok.
Mes parents avaient envie d'un deuxième enfant et ils ont commencé des démarches d'adoption. Donc moi, j'avais très, très, très envie d'un petit frère.
Mm-hmm.
Et bon...
Tu l'as exprimé ?
Oui, je l'ai exprimé et je l'ai notamment exprimé lors d'une réunion parce que donc il y a plein de démarches administratives et sociales à faire pour adopter des enfants. Et j'étais petite, je l'ai exprimé devant une assistante sociale et la directrice de l'association de la famille adoptive française. J'avais très, très envie d'un petit frère. Et il s'est trouvé que quelques mois après, quand la demande d'adoption a été acceptée, c'est un petit frère qui m'attendait à la pouponnière. Un petit frère très gras, très rond et très blond, ce que je ne suis pas du tout. Donc,
ouais.
Mais j'étais la plus heureuse des petites filles. Puisque sans toute la période de gestation classique d'une femme, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est un peu différent, je pense. Puisque on s'y prépare, mais il y a un côté un peu fantasmatique. Puisqu'on sait qu'on attend un très bel événement qui dépend de l'accord d'une commission et d'assistante sociale. Donc, c'est un peu différent aussi.
Donc, t'as quel âge, toi, à ce moment-là ?
Moi, j'ai 5 ans.
Ok. Et donc, tes parents, du coup, ont fait la démarche avec toi aussi. Ils t'ont tout expliqué.
Oui, tout expliqué. Et j'ai grandi, et Antoine aussi, d'après moi, en sachant que j'étais adoptée.
Ouais.
Depuis le départ, je le sais. Mes parents me l'ont dit. J'ai lu des livres pour enfants différents des autres enfants, puisque quand tout le monde lisait Le Petit Ours Brun, moi je lisais un livre où le papa renard adoptait un bébé
D'accord.
lapin, donc pour bien me faire comprendre. Donc c'était pas une surprise pour moi qu'Antoine n'arrive pas par le biais du ventre de ma mère. Et pour autant, c'était un bonheur. Je me rappelle que j'étais très, 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 très fière.
D'être une donc grande tu te sœur. Rappelles complètement de ce moment?
Je me rappelle par le biais d'une partie de mes souvenirs, par le biais des choses qu'ont raconté mes parents et par le biais des photos. Parce qu'en fait, ça crée beaucoup de souvenirs dans la tête, quoi.
Et donc, comment ça se passe ce jour-là ? Tes parents t'emmènent avec toi ?
Alors moi, j'étais à l'école.
Ok.
Mes parents ont reçu un appel. Ils sont partis chercher Antoine. Je pense qu'ils avaient envie, eux, d'avoir la première rencontre. Et je me rappelle que ma grand-mère ou ma grand-tante étaient venues me chercher. Et qu'ensuite, j'étais allée rencontrer Antoine à la pouponnière. Il y avait plein d'autres enfants, c'était très bruyant. Je me rappelle vraiment de ce moment. Bah, toi, t'étais tout petit, donc...
Antoine dubitatif.
Et, oui, tout à fait.
Je ne peux qu'écouter.
Et voilà, et là, on a commencé une vie à 4 au lieu d'une vie à 3.
Donc, ok.
C'est cette rencontre.
Donc ça se passe, t'as 5 ans.
J'ai 5 ans et Antoine a donc 3 mois.
Antoine a 3 mois, ok. Et toi, Antoine, qu'est-ce qui te vient en tête des souvenirs qu'on t'a racontés de ce moment-là ? Parce que j'imagine que tu ne te rappelles pas, évidemment, mais comment on te l'a raconté, toi, cette rencontre ?
J'ai pas beaucoup d'histoires
sur
ça.
Ah, mais si, il y a une histoire extrêmement drôle.
Il y a une histoire, c'est le moment où la mère change pour la première fois son enfant, en fait.
Ouais.
Et j'ai fait comme beaucoup de petits garçons, je lui ai fait dessus.
Est-ce qu'on peut dire que t'as marqué ton territoire à ce moment-là ?
On peut dire ça.
On peut dire que t'étais peut-être content, en fait.
Moi, je devais être très content, très content. Surtout qu'on a eu une très belle famille à l'arrivée.
Oui, on a été très bien accueillis. Ouais. Nos parents sont extrêmement...
Est-ce que vous connaissez votre histoire précédente, en fait, le pourquoi du comment ? Pourquoi vous êtes retrouvés dans cette pouponnière ?
Alors, c'est très drôle parce que moi, j'ai fait la démarche pour savoir...
Mm-hmm.
Et pas Caroline.
D'accord.
Ouais. Et on est C'est un débat, ça se discute. Et
on n'est pas tout à fait d'accord sur le fait de rechercher au nom nos parents.
Ok, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, Antoine?
Moi, j'ai toujours voulu savoir. Mmh. Ça reste un... Ouais, c'est comme un second point de départ. On a eu le point de départ de... On a été adopté par notre famille. Mmh. Et on a le second, on va dire le point originel de comment on a été créé. Mmh. Donc, sorte de prologue, de je sais pas. Donc j'ai toujours envie de savoir, un peu ça rajoute une identité.
Et ça rajoute une identité, ça ne vient pas compléter la tienne?
Ça rajoute parce que c'est un début d'histoire qui n'a pas eu lieu. C'est, on est dans un cadre et finalement non, on va faire autre chose.
Donc pour toi c'est une frustration? Ça a été une frustration de pas savoir?
Pas de pas savoir, j'avais besoin et envie de comprendre. Mais aussi de me mettre à la place de ma mère. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour une femme d'abandonner son enfant. Surtout que moi, maintenant que je connais mon histoire, je sais que ça n'a pas dû être facile. Parce que c'était tardif.
D'accord.
Et donc, non, c'était très intéressant. Et ça donne envie, enfin, je sais pas, d'aller plus loin, de rencontrer ces gens-là.
Du coup, est-ce que tu as passé l'étape d'après, donc d'aller à la rencontre?
C'est en cours.
C'est en cours.
C'est très compliqué, c'est de l'administratif. Et
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur l'administratif? Comment ça se passe en fait? Du coup, tu as récupéré un dossier dans lequel il y avait une partie de ton histoire?
C'est ça. En fait, on fait une première demande à l'association de consulter notre dossier. Or, l'association a droit de nous divulguer qu'une partie. Mm-hmm. Après, il faut aller voir un autre groupe qui s'appelle la CNAOP, qui est en charge de toutes les adoptions en France. Et c'est eux qui ont les autorisations ou non pour aller plus loin. Ça peut être de simplement voir le dossier au complet, parce que moi j'ai certaines données que je n'ai pas, ou même d'aller chercher la mère ou le père.
Donc ça, c'est une autorisation qu'a donné tes parents, qu'ont donné tes parents ou pas?
De ma mère, oui.
Ouais,
c'est
mère.
Si la mère accouche sous X ou non.
D'accord.
Avec autorisation ou non. C'est-à-dire qu'elle peut dire oui à une partie, non à une autre. Et ça encore, il faut demander à chaque fois à la CNAOP.
Ok, et dans ton cas, qu'est-ce que tu as eu dans le paquet?
Moi, j'ai mon dossier.
Ouais.
J'ai fait une première démarche pour débloquer le reste, c'est-à-dire nom, prénom, adresse de cette personne.
Waouh.
Et une deuxième partie qui est, je veux la rencontrer, donc lui faire savoir que je cherche à la rencontrer.
D'accord, donc du coup cet organisme, la CNAOP, va lui indiquer que tu souhaites la rencontrer.
Ils vont vérifier si elle veut bien d'abord, c'est-à-dire qu'elle a laissé une trace écrite.
Ok.
Et donc si c'est oui, ils vont me demander si je confirme ou quelque chose comme ça, je vais redire oui, et là ça va débloquer un autre processus.
T'as commencé quand ce process?
Ça va faire un an, je pense.
D'accord. Et là, t'en es à quelle étape?
Le dossier a été validé et en cours de... En cours. C'est... Okay. J'attends.
T'attends un retour d'elle?
De la CNAOP pour les deux autorisations.
Ok.
Un, de que la FAF puisse me donner mon dossier au complet, sans censure. Et la deuxième, de on a bien fait la démarche de vérification, qu'elle veut bien te rencontrer.
Alors, sans rentrer dans les détails, mais... Qu'est-ce qui censure dans ce dossier?
Tout ce qui pourrait me permettre, moi, de la rencontrer directement. Okay. Donc son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son passé, ou tout comme ça.
Et est-ce que toi, dorénavant, tu sais si elle a laissé ces informations dans le dossier accessible ou pas?
Alors, on me l'a dit, et du dossier que j'ai, puisque c'est des lignes surlignées, on voit que c'est écrit en dessous. Ça dépasse un peu, on voit qu'il y a du pâté.
D'accord.
C'est vraiment des feuilles à l'ancienne, type excès et photocopiées.
Ouais. C'est improbable.
Et derrière le type X, il y a l'identité de sa mère. De sa mère biologique.
Ok. Alors, donc toi, c'est la démarche que tu as entamée, Antoine. Donc, si j'ai bien compris, Caroline, tu n'as pas du tout fait la même démarche.
Moi, je ne l'ai pas faite après, parce que je n'en ressens pas le besoin. Mm-hmm. Moi, je ne ressens pas comme Antoine... l'idée d'avoir deux identités, je crois que ça, je suis assez confortable dans l'idée d'être juste la fille de mes parents actuels et d'être liée à l'histoire familiale, enfin large, de mes parents. Et surtout, et je sais pas si c'est parce que c'est ma personnalité ou parce que je suis une femme, je pense que j'imagine très mal revenir voir quelqu'un qui a vu son enfant être arraché par la vie, hein, parce qu'il n'y a pas de belles histoires.
Ouais.
En grandissant, on s'en rend compte. Donc je sais que l'histoire est triste, forcément. Et je pense que j'ai pas envie d'aller remuer le couteau dans la plaie de quelqu'un. On parlait de la date de naissance. Et moi, je me dis que le 7 avril de chaque année, il y a quand même quelqu'un qui se dit « Purée, ce jour-là, j'ai eu un enfant et j'en ai plus. » Enfin, il a disparu. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté un peu... il y a un côté égoïste, d'abord, parce que j'ai pas envie de me troubler avec ça. Et aussi un côté où j'ai pas tellement envie d'aller troubler la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est...
Donc, c'est dans... voilà, mon truc. Tu ne sais rien du tout de l'histoire de ta maman biologique.
Alors, si, peut-être. Parce que... notre papa, mais nos parents, de manière générale d'ailleurs, ont eu des informations, je pense, quand ils nous ont adoptés.
Okay.
Mais juste des informations qui peuvent te permettre ensuite, toi, quand tu te construis, de te dire bon, finalement, ça va. Et mon père m'a toujours dit dans ton dossier, il y a pas une si mauvaise histoire que ça. Il y a l'identité de tes deux parents. Ils habitaient au Maroc, ou je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs, ou ton père était entrepreneur. Je sais plus d'ailleurs ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, je sais que c'est pas un secret horrible qui est caché. Ça me donne pas très envie.
Donc tes parents ont quelques informations, mais qui t'ont vaguement raconté juste pour te rassurer en fait.
C'est ça, pour me rassurer. Ou en plus dans des moments où je pense pas que moi j'ai eu besoin de demander ça. Au contraire, j'ai eu pendant toute mon enfance l'envie hyper importante d'appartenir à la famille de mes parents actuels adoptifs. Souvent demandé si j'étais bien dans notre nom de famille, si j'étais bien ça et tout.
Alors justement, comment on se construit, comment on construit son identité sur une telle base justement?
Je pense qu'on a des réponses différentes. Tu veux commencer?
Moi, je pense qu'on n'a pas eu une enfance différente des autres. Hein. On est en 3 mois, on est un bébé. Il n'y a rien de différent, je pense. On a juste un... Enfin, on a
t'as jamais mal vécu l'adoption? Tu t'es jamais posé de questions?
Bah non, c'était clair. Notre famille a été plutôt claire, sans tabou ni rien. Il faut dire qu'on n'est pas les seuls adoptés dans la famille. On n'est pas les premiers, pas les derniers. On a des oncles. Des cousins, donc on a baigné là-dedans dans une je sais pas dans...
Oui, c'est vrai que l'adoption dans notre famille, donc au sens large, c'était déjà quelque chose d'inclus, puisque on a un de nos oncles qui est adopté, qui est vietnamien, que mon grand-père avait adopté au Vietnam quand il était en mission parce qu'il était médecin, et on a des cousins aussi qui sont adoptés pour la même situation que nos parents, donc l'impossibilité d'avoir des enfants pour leurs parents. Mais moi, je veux bien nuancer quand même. C'est que, pour mon cas, en tout cas, grandir avec l'adoption, ça a été hyper simple. Parce que je l'ai accepté quand j'étais très jeune et ensuite je l'ai oublié. Et donc, j'ai vécu comme ça. On le voit pas parce que je parle, mais en termes physiques, mon frère est arrivé, il était blond aux yeux bleus. Moi, je suis marocaine d'origine, donc j'ai les cheveux bouclés, les yeux noirs et la peau métissée.
Et ça se voit.
Et ça se voit, et c'est très joli d'ailleurs.
Oui,
hein, mais...
complètement.
et en fait, j'aurais pu penser que cette différence physique avec nos parents, qui sont donc tous les deux français, caucasiens, classiques, allait poser problème un jour, mais en fait, pas du tout. Et même maintenant, les gens qui nous entourent et que j'aime et qui m'aiment oublient régulièrement que je suis adoptée quand je le dis, à l'occasion de soirée ou à d'autres personnes. Donc je pense qu'on reste les enfants des parents qui nous ont élevés et c'est ce qui transparaît de ce qu'on est, quoi.
Et effectivement, moi, c'est cette différence physique dont on m'avait parlé, puisque en réalité, Caroline, je te connais depuis quelques mois, mais je ne connaissais pas Antoine. Et cette différence physique, justement... Je la constate pour la première fois ce soir. Mais est-ce qu'elle vous a porté préjudice? Est-ce que parfois des gens se sont permis de dire non, vous êtes pas frère et sœur? Enfin...
Non, c'est pas la réaction première. Quand ils nous voient, ils comprennent que soit un des deux a été adopté, soit les deux. Et souvent, c'est plus je suis désolé pour l'adoption. Parce que je pense que les gens ont une image un peu peut-être trop série film.
C'est vrai que les gens, moi c'est en train de changer un peu, mais quand tu dis que t'es adopté, les gens sont désolés.
Ouais. Bon, c'est bizarre.
Mais oui, c'est vrai, vraiment. Et je pense que pendant longtemps, on a cru qu'on n'était pas issus du même mariage, qu'il y avait un métissage de bon côté ou quelque chose comme ça. Et quand on disait, je me rappelle, enfant, qu'on était adoptés, les gens, mais même des adultes, hein, étaient vraiment trop désolés pour nous. Et pourtant, on a une super vie. Donc, désolée.
Mais vous pensez que ça vient de quoi, ça?
De fait d'être désolé quand ouais. Mais je pense que les gens ont une idée vraiment film, série de l'adoption de l'orphelinat glauque, des enfants qui ont 10-12 ans qui sont abandonnés dans un dortoir miteux, je sais pas.
Je pense que les gens ont effectivement l'image des enfants à sauver. Et maintenant, on en parle beaucoup plus hein, depuis qu'il y a eu le mariage pour tous et qu'il y a eu on a soulevé beaucoup de débats sur les adoptions. On n'a jamais pensé aux parents à sauver. Parce qu'il y a des gens qui ont des très fortes envies d'avoir des enfants et qui n'ont pas la possibilité physique. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, la France, de manière large, aide les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants physiquement, surtout.
Ouais.
Et donc, on oubliait peut-être un peu que ce n'était pas juste des enfants à sauver, c'était aussi des parents qui avaient envie d'aimer, quoi.
Alors justement, quel âge ont vos parents quand ils... Enfin, si vous le savez, parce que moi, je ne me rappelle jamais quel âge ont eu mes parents, mais...
Il faudrait sortir une petite calculette, parce que là, ils ont 62 ans.
Oui, ils vont arriver sur les 62-63. Hein.
Ouais.
Et quand vous arrivez dans leur vie, ils ont quel âge? Vous avez une idée?
Ça va faire 42-43 pour moi.
Bah, ouais, 35 pour moi.
Ouais, quelque chose comme ça, je pense.
Et un peu moins, 34. C'est intéressant parce que donc mes parents, moi, la procédure a été assez longue, puisque c'est un premier enfant pour une adoption. Et ils avaient prévu un voyage en Irlande. Ils étaient contents, voilà.
Ouais.
Et en fait, une semaine avant le départ, la pouponnière les a appelés. Donc, la FAF, donc la famille adoptive française, les a appelés. Ils avaient fait une demande simultanée à la DAS pour aussi avoir un enfant.
D'accord.
Et ils ont reçu quelques jours après. La réponse positive aussi de la DAS. Sauf que dans ces cas-là, tu as un agrément pour un enfant. Tu ne peux pas en avoir deux.
Okay.
Donc, c'est assez drôle.
Les deux dossiers se sont débloqués en même temps. Quoi.
Tout n'est qu'un hasard.
Et donc, du coup, ils partent ou pas en Irlande à ce moment-là?
Et non, c'est fini. Du coup, foutu, plus d'Irlande, ça y est.
Donc,
je me rappelle que mon père m'a raconté que... je ne sais plus dans quel sens c'est. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre qui a appelé... Si c'est le père qui a appelé la mère ou l'inverse, mais en tout cas, mon père ou ma mère a dit à l'autre « T'es assis là, t'es assis. C'est bon, on a un enfant. » Donc, je pense que ça a été dur parce qu'avant l'adoption, il faut s'imaginer qu'un couple qui se rend compte qu'il ne peut pas avoir d'enfant et qui débute des démarches, avant, il y a malheureusement beaucoup de tests médicaux. Mmh. D'abord, beaucoup d'essais, ensuite beaucoup de tests médicaux pour finalement que ça soit un échec. Et après, commencent les démarches d'adoption qui sont très longues. Donc c'est un couple qui est un peu éprouvé, je pense. Et donc c'est un bonheur qui est infini.
Je rajouterais que le processus d'adoption, leur malheur n'est pas fini. Parce qu'ils vont poser des questions très embarrassantes à la famille et même au couple même. Quoi, pour voir si l'enfant sera heureux dans ce cadre.
Dans les démarches.
Donc il n'y a rien de facile pour des parents.
Qui souhaitent adopter.
Qui souhaitent adopter, oui, tout à fait.
Et est-ce que vous avez... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui a pesé dans votre relation à tous les quatre? Est-ce que c'est des choses dont ils ont parlé? Oui, est-ce qu'ils ont exprimé le fait que ça a été difficile les années précédentes?
Non, on a des parents qui sont moralement extrêmement forts, parce que c'est vrai qu'ils nous en ont jamais parlé. Je pense que nous, on a plus ce ressenti-là, puisque maintenant qu'on est adulte, on estime pouvoir comprendre. Mmh. Pas du tout. Enfin, bon, on peut le ressentir quand même, parce que nos parents nous aiment très, 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 très fort. Et ils nous le font sentir tout le temps. Donc, je pense que on a été un cadeau du ciel. On n'est pas croyant à ce point-là, mais on a été un cadeau pour eux qui est énorme. Et mon père le dit très souvent.
Ils ne nous l'ont pas montré. Moi, je l'ai découvert, la difficulté à laquelle ils ont été confrontés, en fouillant les papiers pour faire ma démarche. Parce qu'il faut savoir que ma démarche, en fait, je l'ai faite sans prévenir personne.
C'est ça qu'il faut savoir.
Je l'ai faite dans le dos de tout le monde.
Okay.
J'ai ouvert un tiroir et j'ai fouillé les papiers pour faire ma démarche. Donc j'ai trouvé ces papiers-là où il y avait les questionnaires remplis par la famille, les amis, tout ça. Et je me suis dit, oulala.
La famille, les amis?
Ouais, ils demandent des questions. Vraiment, c'est dérangeant. C'est vraiment gênant. Et tu te dis que, ils l'ont voulu, cet enfant. Ils l'ont vraiment voulu.
Et du coup, tu prends conscience en fait du poids de cette démarche en découvrant tout ça ?
Du poids, mais aussi de l'amour qu'il y a derrière. Parce que c'est un peu horrible pour les femmes enceintes ce que je vais dire. Mais je trouve que 9 mois par rapport à 2 ans d'analyse psychologique, voilà, ça fait pas le poids.
Ok. Et donc, dans ce que tu as découvert, il y a des choses qui aujourd'hui te ramènent du coup à ton passé. Et toi, dans ta démarche, la finalité de cette démarche, c'est de rencontrer ta mère biologique.
Oui, uniquement ma mère, mais je préfère.
Et justement, j'allais parler des pères biologiques. Où est-ce qu'ils sont dans cette histoire ?
Alors, moi, c'est plus l'histoire. Bon, moi, je suis issu d'adultère. Et donc, les deux étaient mariés à avoir des enfants. Enfin, ma mère ne l'était plus mariée, mais mon père, oui. Et donc, pour lui, comme disait Caroline, on n'est pas là pour mettre toute la vie par terre. Je ne veux pas spécialement lui rappeler ce souvenir-là. Et, par contre, ma mère, je trouve ça intéressant parce que ça a été compliqué pour elle. Elle a dû le faire toute seule. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir un retour sur un choix qu'on a fait, surtout l'adoption confiée à un enfant. C'est aussi la vision qu'on a, qui est différente avec ma sœur. C'est que moi, j'estime que j'ai été confié et non pas abandonné. C'est totalement différent. Et de cet axe-là, voilà, avoir un retour sur un choix, je trouve ça intéressant. Et dire, je suis tombé sur une famille en or. Donc ouais, c'était peut-être le bon choix.
Donc t'aimerais juste lui dire, en fait, qu'aujourd'hui, tout va bien pour toi, quoi.
C'est ça. Je voulais, depuis tout petit, je me suis dit, je vais tout faire pour devenir quelqu'un ou être quelqu'un d'assez bien pour pouvoir me présenter à elle et lui dire, voilà, je suis ça grâce à toi.
Je vais pleurer. du coup,
désolée, on est venu avec une petite boule d'énergie là.
Je m'y attendais pas du tout. Ce que tu dis, Antoine, c'est hyper beau parce que en fait, dans ce que je comprends, tu te fiches un peu du pourquoi tu commandes ton papa, ton père biologique, on va dire ça comme ça, parce que c'est une décision pragmatique, quoi, en gros. Mais tu as conscience que la décision qu'a pris ta mère biologique, elle, est au-delà du sacrifice. Et donc, ce que tu racontes là, si j'ai bien compris, tu le découvres dans les documents en fait, auxquels tu as eu accès.
C'est ça, tout à fait, oui.
Parce que concrètement, cette personne, tu ne l'as jamais rencontrée, pas
jamais.
Encore. Et donc, tu apprends dans ces documents son histoire à elle. Et du coup, tu te prends d'empathie aussi, parce que tu comprends qu'elle a une famille, lui en a une aussi. Et que tu es un peu cette cerise sur le gâteau qu'on n'attendait pas du tout, quoi.
C'est exactement ça, et je ne sais pas quoi dire de plus.
Écoute, je vais le dire parce que je le pense vraiment, mais je te souhaite vraiment de la rencontrer, ne serait-ce que pour lui délivrer le message que tu souhaites lui délivrer. Et je vais revenir à votre histoire à tous les deux, à savoir du coup, l'un est né aux Ulysses, l'autre à Épinay-sur-Seine. Où est-ce que vous avez grandi?
C'est vrai qu'on en oublie la suite de l'histoire. On a grandi...
On a commencé dans le 7e, en face de la Tour Eiffel.
Oui, rue Chevert dans le 7e arrondissement, jusqu'à...
Jusqu'à mes 2 ans, où on a déménagé près de Saint-Lazare.
Okay. Dans la rue de Rome, dans le 8e.
Et est-ce que vous avez fréquenté les mêmes écoles? Du coup, il y a quoi? Il y a 4-5 ans d'écart entre vous?
5 ans, oui.
5 ans. Donc vous avez... Pas été à la
on n'a jamais été dans la même école au même moment,
ouais.
Mais on a eu le même parcours scolaire. Oui.
Peut-être pas la primaire, mais collège, lycée.
Oui, non, pas la primaire, parce que j'étais...
Collège, oui, collège, même collège.
D'accord. Et donc, vous avez été au même moment dans le même collège? Non?
Non,
c'est impossible, ça. Attends. Non, c'est seulement 5 ans.
À 5 ans d'écart, c'est pas possible. Du coup, quels sont vos souvenirs de l'école, justement, par rapport à... Alors, avec ou pas votre histoire, parce que bon, on remplit toujours des documents à la con, père, mère, etc. Oui. etc. Est-ce que vous avez un souvenir de ça, justement, de ces remplissages de documents?
Moi, pas tellement.
Rien d'exceptionnel.
Il y a rien de... Enfin, je sais pas. Après, on a dû avoir des profs en commun ou...
En commun, oui. Moi, j'ai 2-3 profs qui te connaissaient bien, oui. après, j'allais pas plus loin.
J'étais pas du tout turbulente.
Ah non, ils avaient rien à dire. Ils me disaient, okay. T'es le petit frère de Karine. Oui, très bien.
Ok.
Intervention très utile.
Très bien.
Comment ça se passe quand on va... Est-ce qu'à l'école, on est au courant de votre histoire? Est-ce que vous, vous signifiez aux gens ce que vous, votre
Moi, je l'ai souvent dit, et si je peux me permettre de rappeler un souvenir à Antoine qui se rappelle peut-être pas, à l'école primaire. Donc en fait, on n'était pas dans la même école primaire parce que, alors qu'on habitait au même endroit, à 5 ans de différence, la dépendance d'école a changé dans le quartier. Donc on n'a pas eu les mêmes professeurs et le même
environnement.
Voilà. Et je me souviens qu'enfant, il y avait quelque chose qui t'avait perturbé, c'est que les gens ne voulaient pas te croire quand tu disais que tu étais adoptée. Tu te rappelles ?
Non, absolument non, pas.
Ouais. Alors ça, c'est en primaire, c'est ça ?
Et c'était en primaire, oui. Et je me rappelle très bien que t'étais hyper, hyper énervée parce que, en fait, on voulait pas le croire parce que, pour le coup, Antoine, physiquement, il ressemble à mes parents.
Ouais.
Donc,
bah, c'est plus proche, quoi.
Je pensais qu'il disait ça pour faire son intéressant et donc il était hyper, enfin, hyper contrarié. Et voilà, parce qu'Antoine sait, dans ses origines, qu'il a des origines marocaines aussi.
Ouais, je suis à moitié marocain.
Ah, ça se voit pas. Arrêtez-moi. En fait, disons que ça se voit plus chez Caroline que chez Antoine.
Oui, moi, j'ai pas grand-chose de marocain.
Ouais. Et bronze très vite, hein, l'été.
Donc du coup, c'est à chaque fois des justifications interminables, quoi. Faut tout expliquer, en fait.
Eh oui, exactement. Donc il y a ceux qui te disent « Ah, je suis vraiment trop désolée. » Bon, d'accord. Et les autres qui sont extrêmement curieux et qui te disent directement « Et du coup, tu cherches tes parents ?» Tu te dis, mais les gens sont dingues.
C'est vrai qu'on a des questions incroyables parfois.
Ouais.
C'est beau.
Tes parents sont gentils. Qui demande ça? Les enfants, vraiment, ils imaginent des trucs.
Ah, ça, c'est plutôt des questions d'enfants.
Ouais, bien sûr. Oui. Maintenant qu'on a dit, ça met les gens mal à l'aise, plus que chose, je pense.
Ok. Mais... Et qu'est-ce qui crée le malaise? Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on peut.
Je pense que quand tu vieillis, quand tu grandis, tu te fais une image des autres en fonction de ce qu'ils renvoient en termes de visuel. Et donc, quand ça matche pas avec cette image-là, ça te met mal à l'aise. Moi, très souvent, et là je parle de rencontres avec des gens inconnus, ou même des rencontres dans le métro, des gens me parlent en arabe et c'est complètement normal.
Oui.
Oui, ça c'est intéressant. Et depuis que je suis petite. Et donc au début, quand on a un peu oublié qu'on était adopté, on se dit « Pourquoi ?» Je parle pas du tout arabe, pourquoi il me parle arabe? Bon, ok, en fait, je comprends, je saisis. Et les gens sont extrêmement surpris. Et ensuite, te demandent pourquoi tu parles pas? Donc, évidemment, la réponse est hyper gênante. Ouais. Donc, tu dis parce que j'ai été adoptée. Et alors là, ça coupe tout dialogue. Et ça met les gens très, très mal à l'aise. Alors que c'est pas du tout ce que je veux. Hein,
ouais.
Mais ouais. Et ça m'arrive tout le temps. Enfin.
Maintenant, je comprends. Enfin, quand tu l'expliques, là, je me dis oui, ça doit certainement t'arriver assez souvent. Et du coup, t'as jamais eu envie d'apprendre la langue, par exemple?
Et ben maintenant que je grandis, je me dis purée, ça aurait été sympa d'apprendre l'arabe enfant parce que c'est une langue qui est d'abord très belle, parlée à travers le monde. Sauf que maintenant, c'est peut-être un peu difficile.
Mais qui te l'aurait appris?
Si j'avais voulu plus jeune, lors de mes études, quand j'avais le temps, l'énergie et un cerveau un peu plus capable. Mais ouais, c'est peut-être un truc, quoi, je me dis, tiens.
Et toi, Antoine?
Moi, j'avais
des personne te parle en arabe.
Non. Très étrangement, non, je ne comprends pas. J'attends que ça. Mais non, dans mon entourage, dans mes amis, non, c'était accepté. C'était un fait. Voilà, je suis adopté, ma sœur est marocaine. Point. Quelques questions plus, on va dire, plus dans le sujet, qui étaient parfois très intéressantes, qu'on me posait rarement. Non, souvent j'avais des bonnes questions, mais j'allais plus emmerder les gens qui me disaient « Ah, je suis désolé ». Je trouvais ça fascinant.
Ouais.
Je trouve toujours ça fascinant, et d'ailleurs c'est les premiers que je vais voir, je me dis « Toi, pourquoi désolé ? Enfin, c'est toi, explique-moi. Plutôt que moi, pourquoi je devrais m'expliquer ?»
Mais on ne te demandait pas « C'est ta sœur, Caroline ?»
On me l'a demandé une fois, mais je disais « Ah bah non, on nous connaît là-bas. »
Les gens n'étaient pas surpris.
Bah non, non, enfin c'était accepté, voilà, c'était un... on se ressemble pas, pourquoi? Bah on est adopté, fin. C'était pas, voilà, c'est un fait.
Antoine est dans le partage, toujours.
Je sais pas.
Et comment vous décririez votre relation à tous les deux? Comment elle se fait justement cette relation entre deux enfants qui sont si différents en même temps qui ont une histoire commune très forte?
Je pense qu'il y a de l'évolution, je te laisse commencer.
Ouais, c'est... Bon, comme tous les enfants, enfin, comme tous les frères et sœurs, on se chamaillait, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le fond où... enfin, de plus solide, je sais pas. Il y a comme un truc en commun de plus fort. Et quand un nom dit, le fait d'être adopté, d'avoir cette histoire absolument pas du tout en commun, et justement, le fait de pas l'avoir en commun, elle est en commun. Et ça nous unit. Et on est frères et sœurs, mais on est plus proches que des simples frères et sœurs, je pense.
Je suis assez d'accord. Donc, on a un schéma classique au départ. Je pense que je l'ai adoré quand il était bébé. Ensuite, il a grandi, donc on a commencé à se chamailler. Et après, ouais, non, ça reste mon petit frère.
Donc, c'est...
Enfin, mon petit frère qui est grand maintenant, mais pour moi, il est tout petit, mais...
Et vous n'avez pas... Enfin, ça n'a rien à voir, mais souvent, par exemple, quand on rencontre des jumeaux, ils vont vous dire « Ah, nous, on est fusionnels. Ah, nous, on est plutôt pas fusionnels du tout, etc. » Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous sauriez mettre un mot, un adjectif sur...
C'est pas fusionnel, c'est parfois complémentaire.
Ouais. Peut-être complémentaire plutôt, parce qu'on a des caractères extrêmement différents.
Et quand on fait des soirées, on est bien complémentaires pour organiser tout ça.
Ouais. Et ben justement, comment ça se passe les soirées chez vous?
Alors, faut commencer par le début. C'est que moi, j'aime organiser des énormes soirées avec des thèmes, et qu'Antoine est toujours là pour m'aider.
J'ai entendu parler de ces soirées. Et alors, il faut que tu nous racontes, Caroline.
Depuis l'âge de mes 18 ans, chaque année, pour mon anniversaire, ou en tout cas pour marquer le coup des années qui passent, j'organise une soirée avec une quarantaine d'invités, avec un thème dès le départ. Donc ça a commencé gentiment à 18 ans. C'était soirée chic, détail rose.
Ok.
Ça c'est le début. Rigolez bien les filles. Ensuite, on a évolué sur de truc en truc. On a fait une pack party. Alors, tout le monde est arrivé avec des œufs. On en jetait partout. Donc, on fait ça chez nos parents. On attend que nos parents soient partis. Et ensuite, on fait ce genre de soirée. Il y avait des œufs partout dans l'appartement. Pendant 2 ans, on en retrouvait cachés partout.
On en retrouve encore.
Et les dernières années, on a fait des soirées déguisées un peu plus sérieuses parce qu'on a grandi. Donc, on a fait une soirée blanche, une soirée Harry Potter avec des
équipes. Oui, vous
équipes,
avez vachement grandi.
J'ai adoré cette phrase.
Oui, effectivement.
On a grandi, on fait des soirées déguisées.
Ça n'a aucun sens. Voilà, des confrontations d'équipes. La dernière, c'était une soirée zoo avec des gens déguisés en animaux, des gens déguisés en explorateurs. Et en fait, Antoine, d'abord, m'aide à tout préparer et surtout, du fait de son métier maintenant, m'aide à faire les invitations qui sont...
Alors, c'est quoi ton métier, Antoine ?
Je suis développeur. Développeur web.
Ok.
Et donc, je lui ai proposé de faire des sites interactifs pour les carnets d'invitation.
C'est génial.
C'est plutôt cool. Ouais.
D'accord. Et du coup, alors ça, j'ai bien compris que c'est un truc que vous faites depuis que tu as 18 ans. Est-ce que vous avez toujours tout fait ensemble? Est-ce qu'il y a des choses déjà comme ça que vous partagiez enfant?
Certaines vacances. L'été, oui, on partait parfois tous les deux chez des cousins. Et ouais, on a fait des films, on a fait des sorties, ouais. Mais c'est vraiment court quand on repense à tout ce temps passé séparément en fait.
Comment ça ?
Si on doit résumer les vacances qu'on avait en commun par rapport à tout le temps qu'on avait en général, le temps en commun qu'on passait, il est infime.
Ouais, c'est vrai que tous les deux très peu. Après, on a toujours été un peu partenaires de vie parce que. Donc nos parents nous laissaient l'été en vacances chez nos grands-parents, tous les deux. On a beaucoup de cousins, donc ça fait du monde autour, mais on a quand même passé beaucoup de temps. Enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps avec toi, hein, donc je sais pas où t'étais. Mais... et je me souviens, en fait, on a donc des parents qui sont très présents et qui nous ont amenés à faire des activités, à faire des choses et qui ont créé, en fait, aussi tout le côté fratrie. Je pense que de manière générale, ça fonctionne comme ça un peu partout. Mais quand on a des parents qui s'entendent très bien et qui font tout pour, enfin, qui vous aiment très fort, normalement, on ressort souvent des enfants qui s'aiment. Et moi, je me souviens qu'on a fait du roller ensemble plusieurs week-ends quand on était petits.
Exact. Oh la vache. Les souvenirs sont réapparus.
Ouais, dans le parc Monceau, on faisait des tours à l'infini.
À quoi ça ressemblait les vacances chez vous? Est-ce que c'était des vacances en famille? Est-ce que vous avez eu des vacances en famille? Parce que vous décriviez à l'instant les vacances chez les grands-parents.
On avait des parents qui prenaient... je prends la parole, à moins si tu voulais parler.
Vas-y, commence, je t'en prie.
Ils prenaient une semaine de vacances par vacances scolaires classiques et un mois l'été. Donc, on partait, on avait la chance d'avoir des maisons de campagne et des maisons dans le sud par le biais de nos grands-parents. Donc, on est toujours partis en vacances avec nos parents sur le territoire français et dans ces maisons familiales. Donc, il y a de toute façon un poids familial très fort dans les familles de nos parents respectives.
Ok.
Donc, il y a, et ça, je pense que ça apporte beaucoup.
Ouais, à la construction, en fait.
Bien sûr. Donc, on a vieilli l'un et l'autre avec nos cousins très présents.
Ouais.
Enfin, tout ce schéma-là, c'est... Nos parents sont hyper sympas, mais assez sauvages. Et par contre, ils ont vraiment... il y a une puissance familiale qui est très grande. On passe énormément de temps avec nos oncles, tantes, cousins, tout le temps.
C'était des vacances en famille, sans lettres. On partait tous ensemble, mais on faisait un peu tout ce qu'on voulait. Et au final, on se retrouvait dans tous les cas tous ensemble.
D'accord. Donc, c'était un peu la grande vadrouille en famille.
Exactement.
Est-ce que vous avez un souvenir particulier de... d'un anniversaire, par exemple? Vos anniversaires, comment ça se passe chez vous?
Vas-y.
Alors, moi, j'ai dû fêter 3 fois mes anniversaires. Je ne suis pas très anniversaire.
Attends. T'as 24 ans.
Ah, mais en famille, sans les potes.
Ah non, mais en famille, enfin...
Ne nous fais pas passer pour une famille horrible.
Non, entre nous, on fait ça. Enfin, moi je ne suis pas très...
T'es pas très anniversaire.
Je suis pas très anniversaire, je ne sais pas. C'est sympa, voilà. C'est une soirée en famille, j'aime bien. Pas spécialement faire la fête, juste d'être tous ensemble, moi ça me va, c'est sympa.
Et en c'est plus, comme ça depuis que vous êtes petit?
Depuis qu'on est petit, c'est ça que moi j'adore. On est tous les quatre, soit le jour J, soit le week-end qui suit, parce que maintenant on a des impératifs. Mmh. Et c'est agréable en fait de passer un moment à quatre. On passe un repas sympa, à la fin il y a un super bon gâteau et un cadeau. C'est plutôt cool. J'ai un souvenir, mais qui est basé sur...
sur la photo, c'est ça? Ouais, voilà.
Ah, bah je veux bien.
Qui est basé sur une photo où on voit Antoine qui doit souffler.
C'est 2 ou 3 ans, je pense.
Ouais, peut-être 4 quand même, tu fais un peu grand. Et on me voit derrière, avec les bras écartés autour de sa tête. J'ai honte de raconter ça. Prête à donner une énorme claque à mon frère.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ta tête, Caroline?
Je t'enverrai la photo, d'ailleurs.
Mais je veux bien.
Je sais pas ce qui se passe à ce moment. Et je me dis surtout, je ne sais pas ce qui se passe dans l'œil du photographe.
Et vous savez qui a pris cette photo?
Ah, notre père, c'est
notre père, c'est sûr.
C'est le photographe de la famille. Mais sur cette photo, on se dit, elle doit applaudir, mais elle fait une tête et ses bras sont à des endroits. Tu dis non, ça
là, elle va
finir dans le gâteau, en fait.
C'est la tête d'Antoine qui va finir dans le gâteau, quoi.
Et quelqu'un a pu vous raconter l'histoire derrière cette photo ou pas?
Non, malheureusement, d'ailleurs.
Trop de souvenirs s'en mêlent pour ça.
On a un papa qui retient tout, mais qui oublie tout aussi.
Justement, si on parlait un peu de vos parents. On a compris qu'ils avaient eu des difficultés à avoir des enfants, voire pas du tout en fait, et qu'ils ont entamé cette démarche de se dire bon bah on va adopter des enfants avec toutes les difficultés que ça comporte en France. Quel regard ils portent aujourd'hui eux sur l'adoption, même s'ils ont fait la démarche, donc j'imagine le regard qu'ils portent dessus.
Un regard bienveillant, évidemment.
Évidemment. Ouais. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vous ont transmis? Vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est une démarche que vous seriez prêt à faire?
Alors moi, pour moi, oui. C'est certain qu'un de mes enfants le sera, qu'au moins un le sera. Donc voilà, pour moi.
Moi, pendant très longtemps, au départ, je voulais adopter des enfants. Ensuite, je me suis dit, en fait, s'il faut adopter des enfants, c'est parce qu'on peut pas en avoir. Et je pense qu'on peut raconter l'histoire de nos parents. En fait, c'est mon papa qui peut pas avoir d'enfants. Et donc, il y avait vraiment pas de possibilité. Alors que maintenant, et selon les cas, tu peux parfois passer par d'autres choses, donc des FIV et des trucs pour en avoir quand même. Donc, je me dis que maintenant, l'adoption, c'est difficile. Il y a peu d'enfants, ou en tout cas,
C'est plus difficile qu'à l'époque où eux ont adopté?
Dans leur schéma, je pense. C'est intéressant de se renseigner un peu plus, mais il y a beaucoup de frontières qui ont été fermées. Parce qu'en fait, tout part de là. Pourquoi c'est difficile d'adopter des enfants en France, sur le sol français? C'est parce qu'il y a beaucoup de frontières qui ont été fermées, et donc il y a peu de pays qui laissent à l'adoption les enfants qui sont orphelins.
Okay.
Donc, parce que voilà, par des raisons de non-égoïsme total, je me dis que j'adopterai pas si je peux avoir des enfants. Et il y a aussi autre chose qui se crée, c'est que pour le coup, de n'avoir jamais connu quelqu'un qui te ressemble physiquement, et c'est là où vient une sphère, il n'y a pas de bêtises dans ce que je dis, et c'est pas du tout qu'une question d'égoïsme, vraiment pas. Mais donc, évidemment, j'imagine et j'aimerais avoir un enfant à moi qui me ressemblerait. Évidemment, puisque j'ai jamais connu ça et c'est un truc. Et peut-être que c'est plus féminin, hein, je sais pas si tu ressens ça, Antoine, mais.
Bah, moi, on m'a toujours dit que je ressemblais à mon père, donc au final.
Mais est-ce que tu y croyais, toi?
Bah, on se regardait, on rigolait, on souriait, on fait oui, tout à fait, on se ressemble.
Ça nous arrive plein de fois, c'est hyper gênant.
Mais est-ce que le fait justement d'être proche, de s'aimer, de eux, de vous avoir élevé, est-ce qu'il n'y a pas des choses justement qui vont déteindre sur vous?
Ah si, totalement. Caroline est totalement le portrait de maman et moi, papa.
C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que quand je décroche le téléphone, quand je suis chez mes parents, on pense que je suis ma mère. Donc ça veut dire que les intonations de voix, la position qu'on donne à sa voix, tout ça, je l'ai copié de ma mère. Et apparemment, et c'est mes cousines qui me le disent souvent, ma gestuelle et ma posture physique, je ressemble à ma mère. Alors que...
Est-ce que vous en rendez compte? Du coup, Antoine s'en rend compte, lui?
Oui. Mais déjà parce que je suis encore avec eux, donc je peux me rendre compte au quotidien. Je me dis, je le fais aussi, ça vient peut-être de là. Et puis, Caroline, c'est vrai que c'est assez frappant. Il y a des moments, c'est vraiment... C'est identique, quoi. C'est très marrant, d'ailleurs, parce que c'est des mimiques plutôt... bourgeoise française, on peut dire, et du coup il y a Caroline typée marocaine qui fait la même chose, et on la regarde, on fait, il y a un problème.
Oh bah merci. Ok. Mais moi j'ai aussi un truc à dire sur toi, Antoine. C'est que avec mon père ils s'accrochent sans arrêt parce que finalement je pense qu'ils ont,
ils se ressemblent beaucoup.
Ils ont des caractères identiques.
On est pareil. je le sais, j'en ai conscience, hein, c'est ce qui m'énerve encore plus du coup.
Et du coup vous prenez beaucoup le chou?
Oui, tout le temps.
Et sur quel genre de truc, sans rentrer dans les détails, mais...
Oula.
C'est des façons d'être et de faire qui m'insupportent.
Ouais.
Mais qui m'insupportent même quand moi je les fais, en fait.
Bah, non, mais il y a des débats quand même très importants dans la famille sur le sport.
Ah.
Ah non, mais ça c'est total... C'est pas sur le sport. C'est que je déteste quand on s'exprime sur quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un truc qui m'insupporte. C'est tu ne sais pas. Et ça m'énerve encore plus quand... À la fin d'une conversation, je lui demande très bien, mais comment en es-tu venu à penser ça? Et qu'il me répond, je l'ai lu. ça m'énerve.
Que font vos parents dans la vie? Ou que faisaient-ils si...
Ils sont encore en activité, ouais. Okay. Notre maman est kinésithérapeute et notre papa
est ingénieur en informatique.
Dans une boîte.
T'avais
d'assurance.
Un doute, Caroline?
Non, mais en fait, je sais pas trop, parce que comme il a fait un truc hyper complexe,
non,
je sais pas trop quoi dire.
Il a commencé avec un bac d'éco. Puis il y a eu le service militaire à l'époque.
Okay.
Et après le service militaire, vu que ça lui a coupé dans les études, il a cherché un travail. Et dans son travail, on l'a formé à l'informatique.
Okay.
Et comme il était bon, il faisait de l'économie avant, il a un boulot d'informatique économique. Donc il gère le côté métier et le côté un peu technique. Donc il est très bon dans ce qu'il fait et dans la boîte.
Ça, c'est un exemple de truc que tu tiens de lui, par exemple.
C'est ça. C'est ça.
Puisque je rappelle, Antoine est développeur informatique.
Tout à fait.
Il y a un truc que je me dis toujours, moi, ma vie professionnelle, c'est le bordel. Je vois pas comment je fais rentrer un enfant là-dedans. Eux, ils ont en plus hyper désiré des enfants. Ils les ont fait rentrer. Est-ce que ça change quelque chose, justement, votre structure familiale?
Moi, je vais donner mon avis. Et d'ailleurs, mes parents, on n'en a pas discuté. Ils me diront s'ils sont d'accord. Mais je pense que mes parents ont axé leur vie professionnelle autour de la famille. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un boulot. Donc, notre maman, elle est kinésithérapeute en hôpital. Donc, pour les hôpitaux de Paris, à Bretonneau. Et donc, elle a des horaires classiques. Elle travaille à 80%, donc avec un jour de congé. Qui nous servait donc pour nous le mercredi. Et notre papa, il travaille donc très tôt le matin, mais il finit assez tôt l'après-midi. Donc quand même, toute leur vie, et surtout, ils ont tous les deux fait ça toute leur vie.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'on a eu la chance toute notre vie, même si on devait aller à l'étude, après l'école, d'avoir des parents présents tous les soirs, tous les matins, et tous les week-ends. Et c'est pour ça que je te rejoins à Fayol. Nous, avec le, enfin, la conjoncture actuelle, vu la manière dont on bosse tous, ouais, tu te dis que
c'est presque inimaginable, quoi.
Et je pense que nos parents ont mis de côté peut-être des carrières qu'ils ont voulu ou pas, mais pour développer une famille. Et c'était vraiment un souhait, tous les deux. Enfin, quand ils te racontent leur histoire, mon père le dit, et ma mère d'ailleurs aussi, assez légalement, mais en disant, il y a eu un moment où on a trouvé que l'appartement était vide. Et on a eu envie d'avoir des enfants. Donc je trouve que c'est une belle image pour imaginer ce que ça fait d'avoir profondément envie dans ton couple d'avoir un enfant.
C'est comme ça qu'ils te l'ont raconté.
Oui.
Et en fait, est-ce que vous avez une idée du moment où ils ont eu envie d'avoir des enfants ? Combien de temps ils ont vécu à deux ?
Alors,
sans avoir envie d'enfants.
Je crois. Alors, ils se sont mis ensemble à 27 ans. Je pense que ça, en tout, ça a duré plus de 3 ans ou 4 ans. Le moment où ils ont commencé à imaginer que ça pouvait marcher.
Alors, les histoires qu'ils nous racontent, j'ai l'impression que ça s'est passé, mais tellement vite.
Oui, je pense qu'ils sont assez humbles sur la réalité de la difficulté.
Parce qu'en vrai, ça a pris plus.
Parce que quand tu regardes un peu les dates et que tu comptes, ça a l'air d'être plutôt long.
D'accord. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ont ménagé et qu'ils vous ont un peu... Tu disais en début d'enregistrement que ton papa aime à romancer la rencontre.
Alors je pense que d'abord, c'est son caractère. Ouais. Il le tient de sa mère. Et je pense qu'on a été élevés par deux parents qui sont très positifs. Et qui, de toute façon, ne garde que le positif des histoires, des souvenirs. Alors, je pense qu'ils nous ont quand même élevés en nous racontant que les belles choses.
Je ne sais pas si je suis le seul à connaître ce film. Big Fish de Tim Burton, c'est exactement notre père. C'est-à-dire qu'il va préférer romancer une histoire qui est totalement banale. Et en y réfléchissant, tu te dis, en fait, je préfère cette histoire-là que la vérité parce que c'est joli. C'est exactement notre père, c'est ça.
Donc, si on est dans la recherche de vérité, c'est difficile.
C'est compliqué. Ouais,
mais si on a juste envie d'avoir une jolie vie, en fait, c'est assez sympa. Mmh. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils nous ont donc ménagé, certes, mais en tout cas protégé de certaines choses. J'ai en mémoire aussi... mon père, quand on a dû déménager quand j'avais 7 ans et Antoine 2 ans, on habitait dans le 7e, donc il fallait trouver un appartement, et mes parents quittaient une location pour faire un achat.
Mmh.
Et mon père était très angoissé à l'idée de l'endroit où on allait vivre, parce que mon père a toujours eu peur que je souffre de racisme. Je pense que c'est peut-être un peu tabou parfois d'en reparler, mais à ces époques-là, et à l'époque de nos parents, le racisme, d'abord, c'était très, très caché, mais dans les familles un peu aisées, bourgeoises, c'était très répandu. Donc, je pense que c'était un truc qui lui faisait peur, où il a peut-être été confronté, où il a peut-être côtoyé des gens qui étaient de cet ancien FN. Voilà.
Ouais.
Et donc, il avait très peur que
tu sois confronté à ça.
Ouais. Et donc, dans la recherche d'appartement, je me rappelle que ça avait compté et que j'avais compris bien plus tard, en fait.
C'est-à-dire tes parents se sont installés dans le 7e.
Vous
étiez dans le 7e.
C'est ça. Ce qui est très difficile à comprendre, et c'est pour ça que j'ai compris bien plus tard. On vivait dans le 7e, donc avec de la logique, où souffrir plus de racisme que dans des endroits riches. Et bien, en fait, finalement, avec du recul, on allait dans le 8e après. A priori, ça change pas beaucoup. Je vais dire quelque chose qui n'est pas une généralité, mais qui était dans la tête de mon père et qui a fonctionné. C'est que il s'est dit, le racisme, c'est un fait, et ça existe, et c'est triste, mais c'est comme ça. Et malheureusement, il y a, au-delà même des convictions politiques, parfois, il y a aussi la bêtise humaine. Et donc, plus on ira dans des endroits où les gens sont cultivés, c'est ce que je pense que ce qu'il s'est dit, parce que... et plus il y aura de tolérance, en fait. Et je n'ai jamais souffert de racisme de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Partout où j'ai été. De racisme inversé, mais pour des raisons... parce que je suis arabe et voilà. Mais autrement, et j'ai trouvé ça pas si bête, quoi. Mais sur le coup, je comprenais pas. Au contraire, je me disais, c'est complètement crétin. On va pas aller dans un endroit où il y a que des gens riches, blonds et
mais blancs. Vous avez kiffé grandir dans ces endroits?
Je me suis pas trop posé la question.
Vous avez connu que ça.
Ouais, c'est ça.
Et comment ça se passe, la confrontation avec le monde réel? À quel moment tu découvres le racisme, justement?
C'est intéressant. J'ai découvert le racisme en... Donc, quand Paris n'était pas ce qu'il est maintenant, tout le quartier de Pigalle n'était pas le quartier le plus bobo de Paris.
Faut le rappeler.
J'étais au lycée Edgar Quinet, qui est un super lycée, mais qui à ce moment-là était l'avant-dernier lycée de France.
D'accord.
J'avais fait un truc pourri sur mes choix, je m'étais retrouvée là-bas, mon père, sa tête avait explosé. Bon. Mais bon, j'y ai passé 4 années, parce que j'ai redoublé mon bac, mais j'ai 4 années superbes, c'était vraiment un très bon moment. Mm-hmm. Mais en arrivant en seconde là-bas, donc moi je sortais de Chaptal avant, où c'était une vie paisible et... J'avais jamais fumé une cigarette, j'avais bu d'alcool. J'arrivais en seconde comme un petit bébé. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai subi du racisme inversé, mais je pense que c'est parce que c'était de la bêtise. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit comment, mais t'es arabe normalement, t'es catholique, ça va pas du tout, tu renies quelque chose, tu vas mourir en enfer.
Ils ont essayé de t'imposer un modèle, en fait.
M'imposer un modèle, mais qu'on leur a peut-être imposé à eux, parce que maintenant qu'on a vieilli, si ces gens...
En fait, t'es censé correspondre à un modèle, en fait.
Là, il fallait absolument que je sois dans la case de ce que je renvoie physiquement.
Ouais.
Et c'était très dur pour les gens de comprendre, je pense.
Et toi, comment tu t'armes face à ça? Est-ce que t'es armée face à ça, à ce moment-là?
Je sais pas si c'est grâce à nos parents, mais par de la bienveillance, évidemment, en me disant juste... En fait, ils sont bêtes, ils n'ont pas compris. Ça ne m'a pas suggéré, en tout cas, de tristesse. Juste un peu l'idée que les gens étaient bêtes, quoi.
Et tu ne t'es pas posé de questions, toi? Toi, est-ce que tu ne t'es pas remise en cause, justement, à ce moment-là?
Je pense que j'ai vraiment eu envie et acquis une appartenance à ma famille actuelle qui ne me fait pas déroger.
Ouais.
De toute façon, je suis la personne que j'ai formée, enfin, et que j'ai construite. Donc, je me suis dit... C'est juste une histoire qui les dérange, quoi.
Et toi, Antoine, évidemment, tu subis pas les mêmes affronts, puisque physiquement, tu as le type caucasien. Mais est-ce que tu le constates ou est-ce que tu le vois à l'endroit de ta sœur, justement?
Moi, j'ai pas vu ça. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué de se mettre de l'autre côté. Non, le racisme, je l'ai vu avec nos cousins qui sont noirs. Et dans le sud, où c'était un peu compliqué le soir pour rentrer, quand on était un petit peu éméché. Donc là, je me suis dit, effectivement, on n'est pas égaux, parce qu'on était 5, et que des 5, on est la moitié blanc, et que du coup, on était seul à être rentré sans problème.
Alors,
tu parles d'un bar?
Je parle de quand on est rentré de boîte, et qu'en rentrant sur la plage, les flics, nous ont laissé passer, mais pas Alix et Jean.
Ah d'accord.
Parce que ils étaient noirs le soir, et qu'ils faisaient trop de bruit. Alors que nous, on était 5 mètres devant, et qu'on faisait la même chose. Là, c'est la seule fois où je me suis dit, ouais, là, il y a un truc qui est différent.
Parce qu'on est dans une famille multicolore, donc tu te rends pas du tout compte
de
la couleur.
Ouais,
on n'a pas expliqué.
Non, mais il n'y a pas expliqué.
Tu te rends pas compte de la couleur de peau des gens, en fait.
Ouais.
Parce que t'as un oncle vietnamien, t'as tes cousins noirs de peau, donc on a une cousine indienne.
Martiniquaise.
Et il est algérien, notre autre cousin. Donc...
Ça doit être génial, les repas de famille.
Ouais, du côté de notre mère, c'est magnifique.
On est plutôt multicolores.
Ouais, il y a vraiment de tout.
Ça, c'est du côté de ta maman, tu disais?
Du côté de notre mère, il y a beaucoup plus d'adoptions.
Mais il y en a aussi du côté de votre père?
On en a un ou deux, plus loin, plus lointain.
Okay.
Mais il y en a, oui. Y en a.
Donc c'est vraiment un truc assez... Enfin, c'est la culture de la famille, quoi.
Oui, après.
Et avec des histoires similaires, un peu?
Non.
Est-ce que vous compariez votre histoire à celle de vos cousins ou...
On ne les connaît pas, notre histoire, au début. On ne connaît pas notre histoire. Ouais. Donc, on connaît les origines, la base, vraiment toute base de qui sont nos parents.
Et
origine, mais...
Vous disiez que vous, dès tout petit, vous saviez que vous étiez adopté. Est-ce que c'est le cas de vos cousins aussi? Est-ce qu'il y a eu des secrets à garder ou pas?
Alors eux, du coup, il y a un truc avec la couleur. C'était difficile à cacher quand même.
Oui,
mais
effectivement. Oui. Ouais, je viens de... Oui, voilà.
J'étais le seul à qui on pouvait faire la blague. En fait, non, tu n'es pas adopté, tu es le seul. Et là, je me serais senti seul. Tu vois.
C'est vrai.
Ça me fait penser, quand il était petit, Antoine, je lui disais qu'on l'avait adopté dans un cirque.
On se faisait souvent ce genre de blague entre nous. On t'a trouvé dans une poubelle. Ça nous faisait énormément rire parce qu'on savait d'où on venait.
Mais
on a des cousins qui ne sont pas adoptés. Et eux, ça les faisait moyennement rire. Ils disaient, mais vous êtes horribles entre vous.
Ah ouais. Mais ah oui, et comment bah, eux, ah oui, comment ils le vivent comment,
En fait, je pense qu'on a des grands-parents qui étaient extrêmement ouverts d'esprit et qui n'ont aucun problème avec ça. Donc déjà, ça impose dans la famille un respect total et une vie en communauté sans problème.
On revient sur l'adoption de notre oncle, parce que c'est quand même aussi, je pense, toute l'origine. Notre oncle est le dernier, mais le bon dernier de la famille, ils étaient déjà 4, 5.
Donc il a actuellement une cinquantaine d'années, il s'appelle Vincent.
Ouais, voilà. Et il y avait déjà toute une fratrie qui était déjà là, et ils ont décidé de l'adopter alors que...
Les frères et sœurs étaient déjà grands.
C'est du côté de votre père
ou de votre maman.
De votre maman. Donc, si j'ai bien compris, votre maman, elle a 4 frères et sœurs.
Elle a 4 frères et sœurs et un frère adopté.
Et dont le dernier est adopté.
C'est ça.
Et vietnamien.
Exactement.
Donc, elle a déjà baigné là-dedans, en fait.
Exactement.
Donc, c'est pas un truc qui lui fait peur au moment où elle prend cette décision, en réalité.
Elle voyait pas la chose autrement que passer par l'adoption pour que mes parents aient un enfant ensemble.
Okay.
Parce que je sais que maintenant, il y a d'autres formes pour avoir des enfants où tu peux utiliser, en tout cas, la matière fécondable de la femme et prendre un père d'honneur. Et donc, ma mère, elle n'a pas du tout envisagé ça, ni mon père. Et ils avaient envie d'avoir un enfant ensemble et l'adoption, c'était quelque chose qui était déjà, comme on disait tout à l'heure, ancré dans la famille, donc, sans aucun problème.
Tu parlais, Antoine, de ces retours de boîte avec vos cousins, etc. Justement, quel était votre rapport, vous deux, ados? Est-ce que vous sortiez ensemble? Est-ce que...
Dit comme ça, c'est bizarre.
Est-ce qu'il vous arrivait de faire des sorties ensemble?
Oui, l'été.
On avait des groupes de copains communs. On va dans un endroit dans le sud de la France en vacances qui s'appelle le Gaobena, à côté du Lavandou. C'était des grands groupes de potes. Et donc, quand t'es une trentaine de jeunes, ça nous arrivait d'être ensemble. Moi, je suis hyper fière de mon petit frère, donc j'étais tout le temps en train d'aller le voir, mais...
Tu dis ça comme si Antoine ne l'était pas.
Je pense que lui, il se dit « Ah, encore elle !»
Moi, j'étais le petit prince, c'était son petit frère, et j'étais protégé partout, invité partout, j'étais tout content.
Ah ouais. Donc, t'avais pas beaucoup d'efforts à faire, en fait,
C'est ça.
C'était acquis, quoi. Justement, est-ce que vous vous confiez l'un à l'autre? Est-ce que vous avez parlé, tous les deux gamins, de votre vie, comme n'importe quel frère et sœur, justement.
Je pense plus depuis que Caroline n'est plus à la maison.
Ah.
Je pense qu'on a...
Je pense qu'il y a un petit sens unique, quand même. Hein.
Ouais. Non, mais ça c'est ma façon... c'est ma façon d'être. Je suis une tombe totale. Je n'y a rien qui fuite de ma vie. Ma sœur me tend d'arracher des informations sur ma vie, mais... Elle tente même de demander à ses amis, d'amis, ou même de mes amis.
Mais qui ne veut pas savoir la vie perso de son petit frère? Pendant un moment, j'ai inventé une copine. Enfin, en fait, comme il ne voulait pas me donner d'informations, mais que je savais qu'il y avait des nanas, j'ai inventé une nana que j'appelais Sarah. Et donc, systématiquement, quand je voyais Antoine, j'ai demandé comment allait Sarah.
C'est quand même devenu un hashtag sur Instagram en dessous de nos photos.
Voilà. D'accord. Donc, on ira vérifier.
C'est ça. Il s'appelle Où est Sarah?
Et du coup, en fait, si j'ai bien compris, Antoine, c'est un taiseux.
Ah oui, tout à fait. Il dit pas grand chose. Et d'ailleurs, même quand tu lui demandes un peu conseil, il dit trop rien. Mais à la fin, il dit j'avais raison. C'est toi, non?
C'est vrai que je suis assez vague, mais ça dépend des conseils. C'est juste que...
C'est vrai que j'ai souvent raison.
Oui, c'est aussi. Enfin, c'est pas souvent. C'est...
Tout le temps.
Comme j'aime pas ouvrir ma bouche pour rien dire, je réfléchis beaucoup à ce que je dis. Et non, quand Caroline me demande conseils, surtout que les derniers conseils ont été plutôt amoureux, moi, c'est très délicat parce que... Bah déjà, faut pas trop être méchant avec la personne concernée. On sait jamais s'il peut revenir.
Précaution.
Et puis d'un côté, je trouve ça très délicat. C'est cette façon dont on peut demander conseil à quelqu'un sans lui en vouloir derrière si c'était pas le bon choix. Donc je préfère donner des conseils plus de réflexion sur soi ou sur la personne elle-même que sur la chose à faire.
Mais tu fais ça parce que je suis ta sœur ou parce que tu dis ça à quelqu'un de lambda?
Ah non, moi avec mes potes, je suis brutal. Ah, mes potes, je...
Merci.
Donc en fait, c'est pas à Antoine qu'il faut demander des conseils, savoir si tu le largues ou pas.
Si t'as besoin de conseils, Fayol ne vient pas voir Antoine.
Non mais visiblement, il sera plus dur avec moi qu'avec toi.
Ah oui, peut-être.
Donc c'est une forme de bienveillance aussi.
Oui, ouais, tout à fait.
Mais du coup, est-ce que c'est arrivé que ce soit dans l'autre sens? Alors peut-être pas pour les conseils amoureux, mais d'autres choses. Est-ce que vous partagez des secrets en commun? Est-ce que vous êtes du genre à tout vous raconter ou pas du tout?
J'essaie de réfléchir à ce qu'on a cassé dans l'appartement et qu'on n'a pas encore dit aux parents. Mais non, je pense que le premier secret qu'on a partagé, et donc ça revient encore sur la discussion qu'on a eue au début de cette entrevue, mais c'est quand Antoine m'a montré à moi en premier le dossier de son adoption.
D'accord.
Avant de le montrer quelques mois plus tard à nos parents.
Donc ça, c'est votre premier secret.
C'est très tard, mais c'était très important parce que je sais que Caroline prend ça très à cœur, la démarche que j'ai voulu entreprendre. Mmh. Et je sais que ça peut la toucher plus que nos parents. J'avais un peu peur aussi de la réaction de mon père. De mon père et de Caroline, les deux sont un peu pareils sur ce côté-là, ils sont très sensibles.
En fait, moi, j'avais la sensation... Maintenant, j'ai mûri la chose, mais j'avais la sensation que dans cette recherche, il mettait un pas en dehors de notre famille. Parce que... Enfin, je peux raconter un peu ou...
Ouais, vas-y, ouais. Vas-y.
Parce que dans ce qu'il a découvert aussi, c'est qu'il a une autre fratrie. Et on a l'impression un peu qu'on nous retire une place. Et ça, c'est plutôt désagréable. Mais je crois que je suis quand même la meilleure
sœur. C'est de la possessivité, en fait.
Complètement, en fait. C'est ça.
Et qu'est-ce qui te fait peur là-dedans, Caroline?
C'est l'idée qu'il ait une autre vie et qu'il puisse pas la préférer. C'est impossible parce que, bon, on s'est construit avec les gens avec qui on s'est construit, mais moi, j'avais pas envie de partager mon frère. Non, mais c'est vrai, c'est ça.
Et qu'est-ce qui te fait croire que peut-être il t'embarquerait pas dans cette aventure?
Je pense que comme ça me fait peur, j'en ai qu'une image négative. Je me dis, de toute façon, l'histoire va être horrible, ça va pas être bien. C'est pas... Mais bon, je pense que j'ai un petit trajet encore à faire.
Ouais, ouais. Mais t'as mûri un peu le truc déjà.
Bah, ouais, j'ai décidé de plus séquestrer mon frère dans la cave, déjà.
Il faisait froid et humide.
Mais ouais, ouais. Je lui en veux pas du tout d'avoir fait cette recherche et je trouve que c'est hyper constructif. Donc, c'était juste, le moment où tu l'apprends, c'est un peu déroutant, quoi. Finalement, cette histoire-là...
Alors, du coup, Antoine, pourquoi t'as souhaité partager ça en premier avec ta sœur?
Alors, comme je l'ai dit, ça la touche plus. Et j'avais un peu... Enfin, je craignais sa réaction, donc j'ai préféré le faire un peu à part entre nous. Voilà, c'est notre histoire, notre truc à nous. De le faire
tu voulais
avant,
partager ça avec elle, quoi. C'est
d'abord avec elle. Parce que, c'est mes parents, quand même. Je les mets au courant de ce que je fais. Mais non, c'était important de le faire avant avec Caroline, de prendre un moment tous les deux d'en parler. Sachant qu'on en avait parlé en plus quelques semaines avant avec notre père. Et
moi, j'avais évidemment dit, genre, c'est pas possible, faut pas du tout rechercher ses parents.
Ouais, c'est ça.
T'es un peu radical sur le sujet, non?
Non, mais je pense que je voulais le dissuader de le
faire. Ouais, c'est ça.
Ouais, ça a pas marché.
Non, pas du tout. Et je me suis même dit qu'en le faisant, en faisant ce premier pas, peut-être que ça te donnera envie et même ça peut titiller ta curiosité parce que on découvre des choses très intéressantes sur nous-mêmes, sur nos origines, découvrir, comme a dit Caroline, il y a une autre fratrie et rien de savoir ça, c'est intéressant, je sais pas, c'est intriguant qui sont ces gens. Et on a une partie en commun quand même. Donc.
Toi, t'as l'air d'avoir envie de savoir des choses sur le passé de Caroline elle n'a pas forcément envie de savoir, c'est ça?
Moi, je suis extrêmement curieux. Ouais. Je serais capable d'y aller et de dire, mais est-ce que je peux le voir juste moi? Promis, je dis rien, juste moi, s'il vous plaît.
J'adore.
Je me pose une question et elle est un peu dure, mais je la pose quand même. Est-ce que t'as pas peur d'être déçu?
Déçu de?
De ce que tu vas découvrir ou pas, qu'on te ferme la porte peut-être?
Je ne pense pas qu'on me ferme la porte. De là à ce que ma mère me présente mes frères et sœurs, je ne sais pas. Je me dis, il y a tellement de choses dans ce dossier, je trouverais ça incohérent d'un coup de dire en fait non. Elle a laissé tellement d'histoires, de traces, il y a tellement de petits éléments qui font un peu rêver, qui donnent espoir, qui... J'en attends rien. C'est c'est mon acte, c'est moi, c'est ma décision de lui dire, voilà, ça a donné ça au final, ton choix, et je pense que ça fait du bien aussi d'avoir un petit retour sur ses choix, comme je l'ai dit avant.
Et toi, est-ce que t'as peur, Caroline? C'est pas justement la peur que Antoine soit déçu?
Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. J'ai confiance quand même dans l'association par laquelle on a été adopté, qui recueille toutes ces informations et qui vit des moments avec les femmes à accompagner. Donc je me dis quand même qu'il y a quelque chose peut-être de bon, mais je pense que ça me fait un peu peur. Et on a oublié de mentionner quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que quand on fait, nous, une démarche pour retrouver nos parents, les parents peuvent le faire aussi dans l'autre sens. Et on peut être un jour dans notre vie contacté parce que notre père ou notre mère biologique veut prendre contact avec nous. Donc je me dis, peut-être qu'un jour, il y aura un signe dans l'autre sens.
Ouais.
Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous êtes passé par des moments hyper joyeux au sein de cette grande famille multiculturelle. Est-ce que vous voyez souvent? Est-ce que vous partagez encore beaucoup de moments ensemble?
Énormément. Moi, je revois beaucoup de cousins qui sont sur Paris. Mmh. On a d'ailleurs prévu bientôt, dès que t'as ouvert ton resto, on sera déjà 4-5. Donc
c'est venir. Parfait. Ouais, on est très très proches, c'est vraiment chouette. Enfin, on prévoit tout le temps des choses. Enfin, l'année dernière, j'étais aux Philippines pendant un mois avec un de mes petits cousins. Enfin, vraiment, on est une famille extrêmement proche. On a de la chance.
Et vous deux, est-ce que vous faites des choses ensemble? Est-ce que vous partagez, je sais pas, une passion pour les mangas ou j'en sais rien?
Antoine doit venir réparer un ordinateur chez moi la semaine prochaine, mais... on fait pas forcément beaucoup d'activités ensemble, mais on peut passer du temps ensemble. Mmh. Enfin, ensemble dans la même pièce, à regarder un film en commun.
Ouais, on a passé énormément de temps à regarder des films. Enfin, j'ai regardé les films, tu as dormi. Mais voilà, non, c'était notre.
Ouais, c'était on n'a pas d'activité commune, on n'a pas de passion en commun.
Et tu disais tout à l'heure, Antoine, que, et d'ailleurs toi aussi, Caroline, que petit, vous vous êtes chamaillé un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, adulte, est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire la gueule, vraiment?
Je crois qu'on s'est jamais fait la gueule.
Je pense qu'on s'est chamaillé pour des histoires d'enfants.
Ouais, mais les parents nous punissaient dans nos chambres, comme toute famille, et puis fin, le lendemain, ou même 10 minutes après, on mangeait, et puis c'est...
Zéro rancune. Ouais, il n'y a jamais eu de jalousie, ou... On a un rapport de toute façon à nos parents qui nous est propre. Antoine est très proche de ma mère et moi, on est très proche de manière générale de nos deux parents. Mais Antoine, il est plus proche de ma mère et moi, plus proche de mon père, dans la manière d'être. Et donc, je pense qu'il y avait déjà une équipe. 4, 2 contre 2.
Et justement, dans cette équipe, est-ce que vous avez parfois ressenti des différences de traitement, peut-être dues au genre ou... dû au physique, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais est-ce que c'est il y a des choses qui vous paraissaient chelou dans la manière de faire
de
vos parents avec Antoine et peut-être avec Caro?
Je pense que je vais dire quelque chose qui est hyper réciproque et Antoine va dire la même chose. Mais moi, je trouve que ma maman est un peu laxiste et vraiment très sympa avec mon frère. Et je sais pas si c'est parce que c'est le petit dernier. Mais mon père est peut-être pareil avec moi. Mais...
J'aimerais bien que tu définisses laxiste.
Non, mais elle te passait... Enfin,
j'ai jamais fait de grosses bêtises.
Mais t'avais quand même le droit à beaucoup de choses et t'étais un peu capricieux quand même quand t'étais petit.
On s'en rend pas compte quand on est petit, donc je sais pas.
Mais non, sinon, dans l'éducation de nos parents, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui étaient hyper cool, qui nous ont laissés être nous-mêmes. Bon, avec quelques limites, mais... et qui ont vraiment, ils ont eu confiance en nous toute notre vie, donc peu importe les choix qu'on fait, ils sont toujours très fiers. Et ça, c'est ce qui donne, je pense, aux enfants la liberté d'être eux-mêmes et la confiance en eux.
C'est vrai qu'on a eu tous les deux des parcours un peu études supérieures chaotiques, et ils nous ont toujours suivis, toujours accompagnés, ni trop, ni pas assez. Donc non, ouais, on a eu cette chance d'avoir des parents qui nous suivent, qui nous soutiennent. Quoi qu'on fasse.
Et vous en avez parlé un petit peu au début de notre discussion et un petit peu au milieu, le rapport de votre famille et donc de vous à la religion. qui est inscrite dans vos patronymes, puisque vous portez tous les deux le nom de la Sainte Vierge Marie. quel est le rapport de votre famille à la religion et qu'est-ce qui vous en reste ?
Je pense qu'il y a différents grades. Mmh. On a des cousins ou des oncles plutôt qui sont encore pratiquants, bien bons pratiquants. Puis ça va un peu se décanter au fur et à mesure.
On a des grands-parents en fait qui étaient très pratiquants et qui ont élevé nos parents dans la culture catholique très classique. Par exemple, nos parents, vous voyez leurs parents. Donc voilà, c'est ce style de famille.
Okay.
Donc c'est avec beaucoup de respect, avec la messe tous les dimanches. Donc voilà, le scoutisme. Et
vous avez vu vos parents, vous voyez vos grands-parents.
Et on vous voyait nos grands-parents.
Et on était les seuls à vous voyer nos grands-parents.
D'accord.
Et donc il y a un côté culturel en fait finalement, à ce côté religieux. Donc nos parents ont respecté. Donc nous, on a tous les deux été au catéchisme. Après, on vivait pas très loin de notre grand-mère maternelle, nos grands-parents d'ailleurs maternels, parce que notre grand-père était encore là. Donc, elle a été aussi dans l'élan vers le côté chrétienté. Mais moi, je me rappelle que j'ai été très heureuse d'aller au catéchisme et c'était une activité que j'aimais. Nos parents maintenant sont beaucoup moins pratiquants. Mmh. Les réunions de famille en présence des grands-parents amenaient à aller quelques fois par an à la messe pour les grandes occasions, donc Noël, Pâques, Pentecôte.
Ouais.
Maintenant, je pense que nos parents sont plus... Enfin, je ne m'avance pas pour eux, mais dans l'agnostisme, vraiment, ils sont agnostiques. Et... Parce qu'on va peu à la messe et je les vois pas pratiquer, en tout cas. Je pense que la foi est propre à chacun. Mais ça marque une éducation, le catholicisme. Donc, ça reste quelque chose... En nous, quoi.
C'est ça. On a les valeurs, mais...
Tu parlais de ma chaîne.
Oui.
Il y a des choses comme ça dessus, quoi.
C'est des Vierges Marie dessus.
Oui, il y en a plusieurs.
Donc, vous êtes, vous, pas pratiquant. Vos parents ne le sont plus.
Oui.
Mais, en fait, ce que vous décrivez, c'est qu'il vous reste les valeurs de la chrétienté et de... Et les valeurs familiales, en fait, qui...
Tout à fait. T'as 100% raison.
C'est un socle.
C'est les valeurs familiales et je pense que le côté culturel que ça peut amener, parce qu'on vit quand même dans un pays dont le calendrier est fait par rapport à cette religion. Et donc, mine de rien, ça te donne un petit bagage culturel intéressant.
Ça me fait penser, j'ai une question, mais qui vous a donné vos prénoms ?
Les premiers ?
Caroline et Antoine. Ça, c'est les prénoms qui vous ont été donnés par vos parents adoptifs.
Voilà, Jean-Luc et Hélène.
Marie, j'ai plus tous les noms. Marie, ouais. Anissa, c'est vos parents adoptifs aussi.
Alors non, en fait, on connaît nos vrais prénoms. C'est vrai qu'on oublie des phases hyper importantes. En fait, quand on est adopté, que les parents décident de vous faire, que vous ne naissiez pas sous X, ils ont l'obligation, entre guillemets, de donner deux prénoms.
En fait, non.
Ah. Si.
Ils ne sont pas... Non, ça peut être une infirmière. C'est ça aussi qui m'a...
Moi c'est très genré, donc à mon avis...
C'est que moi, je sais que c'est ma mère qui a choisi mes trois prénoms, alors qu'il se peut que dans certains cas, ce soit les infirmières ou d'autres personnes...
En fait, la loi oblige qu'il y ait au moins deux prénoms.
Parce que ton premier prénom devient ton nom de famille.
C'est ça.
Comme t'as pas de parents.
Attends, c'est compliqué.
En fait, quand donc tu nais et que t'es reconnu, il te faut au moins deux prénoms, puisque ton prénom devient ton nom de famille.
D'accord.
Et ton deuxième prénom devient ton prénom.
Ok. Donc, dans l'absolu, tu t'appelais Caroline Anissa ?
Donc, Caroline, c'est le prénom que mes parents adoptifs ont choisi. Marie, c'est donc la culture. Et donc... Dans ma tête, et pendant très longtemps, et dans la tête de nos parents, parce qu'on ne savait pas l'information que je vous ai dit avant, je m'appelais Anissa, avant. C'est pour ça que, bon, moi, ça a quand même du sens, mes prénoms. Mais l'autre jour, on a rouvert un dossier, et on s'est rendu compte que mon nom de famille était en fait mon vrai prénom. Donc mes vrais prénoms, et Antoine, tu les connais aussi, les tiens, moi, c'est Sarah, Anissa, Inès. C'est mes trois prénoms qui m'ont été donnés à la naissance. J'imagine par ma mère, mais apparemment, c'est peut-être une infirmière.
Faut aller voir le dossier.
Ouais.
Et toi, Antoine, du coup, c'était quoi tes prénoms ?
C'est Adrien, William, Denis.
Donc ça, ce sont ceux que t'ont donné, a priori, ta
mère.
Ok. Et donc, juste pour information, hein, j'en sais rien justement. Donc, ils avaient le choix, vos parents, de vous préserver ces prénoms ou de les
changer. De les garder ou de les changer. Nos parents adoptifs actuels avaient tous les deux déjà choisi. C'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de parents. Mais avaient tous les deux choisi déjà des prénoms pour leurs enfants. Donc, mais ils voulaient absolument garder dans notre identité
une trace.
Notre histoire.
Mmh. Ok. Donc, c'est pour ça que Antoine s'appelle Antoine Adrien Marie et toi, Caroline Anissa Marie.
Enfin, ouais,
même dans le même ordre, Marie Anissa.
C'est ça.
Ok, donc c'est vachement plus clair. On apprend plein de choses en fait sur l'adoption, mais c'est.
C'est drôle comme c'est dans une carte d'identité.
Il y a, ouais, y a énormément de choses. Donc, du coup, le seul endroit où il reste une trace de vos prénoms qui vous ont été donnés par vos parents biologiques, ouais. Pardon, ouais. Par vos parents biologiques. Et dans ce dossier, en fait.
À
part
c'est ça.
Exactement. Votre troisième
prénom. Parce
qu'après,
quand on a été inscrit à l'état civil sur le livret de famille de nos parents, tout ouais. A disparu.
Okay. Après, moi, j'ai un petit carnet de pouponnière.
Toi, t'as un
avec
petit carnet.
Mes noms et mes descriptions de tous mes mois, la pouponnière. Je sais pas si
en fait,
tu dois avoir le même.
Moi aussi, je dois avoir le même, je sais, ou pas. En fait, quand tu vas chercher ton enfant à la pouponnière, donc l'endroit où les enfants passent de 0 à 3 mois, enfin maintenant de 0 à 2 mois, avant d'être adoptés. Il y a des auxiliaires de puériculture très attentionnés qui, à ce moment-là, en tout cas, remplissaient des carnets. Donc, ce qui te permet, je pense, pour quand t'es parent, de connaître un peu ton enfant, parce que
et
tu repars
nous,
quand
ouais.
Même avec un bébé sous le bras, qui a déjà une personnalité. Enfin, voilà, quoi.
Même nous, on se voit grandir et ils décrivent comment on avance, si on se tient assis, si on marche à quatre pattes, si on communique avec les autres, si on rigole, joyeux, machin. Ça.
Alors toi, tu l'as lu du coup ce carnet,
Antoine? Moi, je l'ai lu souvent, je trouve ça très, très marrant.
Qu'est-ce que t'as découvert sur toi?
Pas vraiment découvrir, mais c'est rigolo.
Tu ressemblais à une grosse patate dans
ouais,
un pouf.
Ouais. C'est
hyper
ce
grand.
Qu'on a en commun. On a été très gros étant petit. Non, moi c'était plutôt. J'étais joyeux et bien éveillé.
Ok. Et toi, tu te rappelles pas avoir vu ce carnet, Caroline?
Non. Mais c'est drôle parce que maintenant que ce soir on a cette discussion approfondie sur l'adoption, je me rends compte que je passe à côté moi-même de plein de trucs. Donc faudrait peut-être que je cherche.
J'aurais encore mille et une questions à vous poser, mais je crois qu'on touche un petit peu à la fin. Et justement, il y a une partie qui est un peu un jeu en fait. Je vais vous poser des questions et l'idée c'est que vous répondiez du tac au tac. La première réponse qui vous vient en tête. Donc la première question, notre premier voyage ensemble.
Ah, le Maroc.
Maroc.
Eh ben on va faire une pause. C'est votre premier voyage ensemble, le Maroc.
La première fois de notre vie qu'on est sorti du continent européen.
Ouais, et vous savez pourquoi ?
C'est un voyage qui tenait à cœur énormément à nos parents, parce que vraiment l'adoption fait partie intégrante de notre vie et nos parents voulaient absolument qu'on aille au Maroc ensemble. Parce qu'ils sont fiers et ils sont contents d'avoir des enfants qui ont des origines différentes. Et
ils voulaient nous montrer aussi le Maroc, nos origines, la culture marocaine, tout ça. Donc, ça aussi, nous.
Vous en avez un souvenir?
C'était au Club Med, alors du coup, c'était super cool.
Non, moi, je me souviens, place...
Jamel Efna.
La place Jamel.
C'est ça. Place Jamel Efna, je me suis fait agripper et on m'a mis un singe sur l'épaule.
Ah oui,
terrifié.
Ça existait déjà.
Moi, j'ai un souvenir... qui avait été terrible, c'est que moi j'ai les cheveux très bouclés, normalement.
Ça se voit pas là.
Oui, c'est un message brésilien. J'ai les cheveux très bouclés et quand je suis arrivée au Maroc, parce que les femmes sont très belles et très, très apprêtées, je pense que, et en tout cas peut-être que dans la région de Marrakech, elles n'ont pas ces cheveux-là. J'avais retrouvé que des femmes avec des cheveux lisses et moi c'était vraiment la dernière de toute ma vie. D'avoir les cheveux bouclés quand toutes mes copines à l'école avaient les cheveux lisses. Et quand je suis arrivée au Maroc, je me rappelle avoir été un peu déçue de voir que finalement, j'étais encore la seule avec des cheveux bouclés.
Attends, mais du coup, et quand t'arrives sur place, physiquement, tu te dis, il y a un truc. Parce que vous avez quel âge à ce moment-là?
Moi, j'avais 14 ans, donc toi, tu devais avoir 9 ans?
Oui, je devais avoir 8-9 ans. Oui.
Moi, j'étais en 4e.
Et donc, tu t'es un peu comparée aux femmes là-bas?
Je pense que je cherchais à me reconnaître dans d'autres personnes, et notamment dans les traits de visage. Et j'avais remarqué aussi que, mais puisque le Maroc est grand et que les styles physiques au Maroc, c'est très différent. Mais à Marrakech, les femmes avaient plutôt des visages ronds et des formes de nez pas très fins. Et c'est pas du tout la forme de mon visage. Et donc, j'étais un peu déçue. Je pense que cette histoire de ressembler à quelqu'un, c'est quelque chose qui était important pour moi quand j'ai été plus jeune et peut-être encore maintenant. Et cheveux lisses et visage rond, j'étais super déçue.
C'est foiré, quoi. Et toi, Antoine, est-ce que tu as ressenti ce besoin de ressembler à quelqu'un à un moment ?
Non, pas vraiment. Je suis en train de me dire, mais en fait, je me sens pas si marocain que ça, parce que quand je suis allé au Maroc, moi, c'était un pays que j'allais visiter, c'était très intéressant. Alors oui, c'est ma culture, enfin, mon origine, plutôt. Non, j'étais pas spécialement en train de chercher un repère ou j'étais en train de découvrir un pays. Et il faut dire que la plage d'Amaïfna est dans le vieux Marrakech. Et du coup, c'est vraiment des paysans. Et donc, moi, j'ai 8-9 ans à l'époque et je vois des enfants qui ont mon âge et qui sont en train de forger des trucs. Et moi, j'étais pas du tout prêt. Et finalement, je suis resté au Club Med.
En fait, vos parents, ils ont pas du tout fait exprès, en fait, d'avoir des enfants qui avaient la même origine. Ça aurait pu être tout l'inverse.
Maintenant qu'on connaît l'histoire d'Antoine, c'est exceptionnel.
Ouais.
C'est un hasard total. Ouais. Vraiment.
Je reviens à mes petites questions tac au tac.
Ah, yes.
Est-ce que vous avez le souvenir d'une grosse bêtise à deux ?
Moi, je dirais jardin, parce que ça me dit un truc, là. Un truc qu'on a cassé dans le jardin, on a essayé de le cacher aux parents.
Une bêtise à deux ? Non, j'ai aucun souvenir de bêtise à deux. Même de bêtises tout court, je ne me souviens pas.
Antoine était parfait.
Je me souviens de que tu m'as enfermé dans le jardin. On a une vidéo à l'appui,
oui.
Mais sinon, non.
Votre première boîte de nuit ensemble.
J'avais 15 ans et elle connaissait le videur et du coup elle m'a fait entrer.
Trop stylé.
C'était dans le sud de la France, ouais. J'étais rentrée avec mon petit frère. Il y a des photos, t'es pas très à l'aise.
Je n'ai aucun souvenir de cette soirée.
Ouais. Mais il n'avait pas bu d'alcool.
Ah, c'était... Ah ouais.
Moi, oui, mais pas lui.
Ok. Il avait 15 ans. Donc,
ouais.
La première fois que vous avez vu votre frère ou votre sœur avec un copain ou une copine
Moi, je suis désolée, c'était avec Luc. C'était le seul que tu nous as présenté.
Moi, c'était avec Sarah. Je ne me rappelle plus des prénoms de toutes tes nanas.
Merci beaucoup.
Il y a longtemps.
Je ne suis pas psy pour un sou, mais tu ne te rappelles pas des prénoms des copines d'Antoine ?
Non, mais il en a eu plusieurs des différentes qui avaient des prénoms similaires. Non, mais...
Je ne suis pas ça, ok ?
Non, mais je vais passer pour ce qu'il n'est pas du tout. Hein, c'est un garçon très sérieux, mais... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, celle avec les cheveux bouclés assez jolis, quand tu étais jeune.
Si tu peux être moins flou, ça serait génial.
Je ne sais plus. Et qui était sortie pendant longtemps, quand tu étais au collège.
Je ne sais pas, je ne vais pas dire des...
J'adore parce que, en fait, vous ne voyez pas les filles, mais il me dit des noms. Et ensuite, il dit, il n'y a pas tant de prénoms que ça. Bon, c'était Sarah, il y a longtemps.
Hashtag où est Sarah.
Ouais,
c'est ça.
Exactement.
Et pourquoi tu as dit je suis désolée, mais c'était Luc ? Tu as dit je suis désolée.
Parce que je ne sais pas s'il y en a eu avant ou si je devais me rappeler de ceux d'avant ou pas, je ne sais pas. Mais c'est celui qu'on a vu le plus. Et c'était plus ou moins récent, donc voilà.
Et justement, est-ce que vous avez déjà eu du mal à supporter un ex, une ex, j'en sais rien.
Je te laisse la parole, Antoine. Sens-toi libre de dire ce que tu veux.
Non, mais nous, quand on a rencontré... quand j'ai rencontré Luc, moi j'étais avec mon meilleur pote dans le salon et on s'est bien marré. Autant se moquer de lui que de rigoler avec lui, donc... Voilà, je sais pas.
C'est pas très sympa parce que moi je pense que Luc est une bonne personne, mais c'est des questions d'affinité. Mais moi je me rappelle pas trop avoir détesté. Je trouve qu'elles ont toutes été. En fait, je pense que j'étais tellement surexcitée à l'idée que mon petit frère ait une copine et qu'elle soit hyper sympa et qu'on s'entende bien. Je pense que je les ai toutes fait flipper, grave. Parce que j'étais, tu sais, la grande sœur qui se pointe et genre salut, enchantée Caroline. Et Antoine était plus en train de me pousser, genre oui, c'est bon.
Tu confirmes, Antoine ?
Je me souviens pas d'une rencontre, de les avoir présentées officiellement. C'était plus ah, t'es là ? D'accord.
Parce que souvent, en plus, j'habitais déjà plus chez mes parents et genre je me pointais en pleine journée un mardi. Et là, j'ouvrais la porte. Ah, salut! Donc, ouais.
Donc, c'est un vrai sujet dans ta vie, Antoine. Caroline a absolument besoin de savoir.
Si tu veux tout dire ce soir, c'est maintenant. Qui est Sarah?
Non, mais. J'ai pas de révélation à faire.
Bon, pas ce soir en tout cas. Votre plus grosse peur?
Simultanée ou pas?
Comme tu veux.
Je suis obligée de la raconter.
J'y étais tellement pas, je ne voyais pas du tout de quoi tu voulais parler.
Quand on était enfant, je la fais courte, hein, mais quand on était enfant, on était en vacances dans le sud de la France, enfin dans le sud-ouest, avec des cousins. Antoine est déjà mort de rire.
Oui, c'est ça. Et moi, je rigole, je sais pas encore pourquoi, mais je rigole.
Donc, on est en vacances dans le sud-ouest et on dort dans une très grande chambre avec en face à face deux lits de place. Donc, moi, je dors avec notre cousine Angéline qui a mon âge et Antoine dort avec notre cousin Edgar qui a aussi son âge. Donc, c'était vraiment le match parfait pour les vacances. Et puis, bon, on éteint les lumières et Antoine s'endort. Et donc, on décide avec les deux autres, de faire la blague de l'année à Antoine en faisant semblant que quelqu'un était rentré dans la maison et était venu pour nous tuer. Donc, on ouvre toutes les fenêtres, on met le bazar dans toute la chambre. Il faut imaginer qu'il y avait des parents quand même dans cette maison. Enfin, ouais. Donc, on met le bazar dans toute la chambre et on commence à s'écrire sur le corps. « Je vais te tuer », machin, des trucs comme ça. On écrit sur Antoine. Antoine avait 12 ans. Il dormait profondément. Donc, on lui écrit dessus et tout. Voilà, on prépare notre truc. Et là, ça y est, acte 2, scène 3. On le réveille. Oh, Antoine, c'est bon, il y a machin qui est venu pour nous tuer. C'est terrible. Et je me souviens voir la peur sur le visage de mon petit frère et vouloir arrêter le truc, quoi. Vraiment, me disant, oh non, c'est horrible, en fait. Et Antoine, il me disait, faut appeler les parents. Non. Parce que, du coup, nous, on allait se faire engueuler. Et vraiment, la peur sur le visage de mon frère, ça a été, pour cette blague, complètement nulle. Mais qui me fait bien rire maintenant.
Non, moi, c'est la meilleure blague du monde. J'aurais fait pareil.
Est-ce qu'il y a un truc que vous détestez chez l'autre? Un bruit, une mimique, une habitude que l'autre fait que vous détestez?
Ouais, mais d'ailleurs, il peut la faire au micro et...
Je la fais très rarement.
Ah, mais c'est insupportable.
Caroline déteste les bruits de mastication ou de glou-glou quand on avale de l'eau. Donc, quand on est à table, une bonne gorgée.
Une bonne gorgée, je fusille de regard la personne qui fait ça. Quoi.
Mais Caroline a une tendance à montrer ce qu'elle mange très souvent. Donc voilà, ça c'est vraiment répugnant.
Ah, dans ma bouche pour l'embêter.
Donc, Caroline, tu détestes les bruits de bouche de ton frère. Et... Et Antoine, tu détestes voir la nourriture dans la bouche de Caroline.
C'est vrai que c'est un peu bizarre dit comme ça.
C'est ça.
Je fais souvent avec de la mousse au chocolat, quoi, par exemple.
Est-ce que vous êtes du genre à sortir des dossiers l'un sur l'autre?
Constamment, comme on a pu le voir depuis le début.
Ouais, plutôt.
Même devant vos mecs, meufs?
Surtout.
Ouais. On a un père qui fait ça tout le temps.
Ah.
Donc...
Ouais.
On a le droit à la maison.
On atterrit doucement vers la fin de ce podcast et je vous invite l'un et l'autre à prendre le micro seul pour laisser un message à votre frère ou à votre sœur. Donc Antoine va laisser un message à Caroline. Caroline, tu vas sortir de la pièce et ensuite ce sera ton tour, Caroline. À nous deux, Antoine, est-ce que tu as un message à faire passer? Qu'est-ce que tu voudrais dire à Caroline?
Que je ne parle pas beaucoup, effectivement. Elle aimerait que je me confie plus. Mais faut pas qu'elle s'inquiète, que pour moi elle compte limite beaucoup plus que la relation enfin qu'on a avec nos parents, tout ça. Je lui présente pas beaucoup mes copines parce que la fille que je compte lui présenter ou que j'aimerais lui présenter, je pense que ça sera la bonne, vraiment. Donc voilà, qu'elle s'inquiète pas de pas voir Sarah.
Caro, ça suffit, laisse-le tranquille. Merci beaucoup Antoine.
Merci à toi.
Caro, Antoine vient de te laisser un message, tu l'auras compris, tu n'écouteras ce message quand tu écouteras ce podcast, à ton tour de lui laisser un petit message.
Je vais lui laisser un message pour lui dire que je suis hyper fière d'avoir un frère comme lui, même s'il a un caractère qui parfois m'hérisse le poil, je trouve qu'il est devenu quelqu'un de génial, que je l'aime très fort et que je le soutiens à fond dans sa recherche, que j'ai pu être parfois un peu dure dans mes mots, mais je soutiens ce qu'il fait et je trouve qu'il est très courageux de l'avoir fait tout seul. Voilà.
Antoine, Caroline, merci encore d'avoir accepté de venir vous livrer dans ce podcast. J'ai adoré votre histoire comme toutes les autres aussi, mais c'est vrai que c'est toujours particulier de découvrir sous cet angle-là en fait des gens qu'on connaît ou plus ou moins. Je te connaissais, Caroline. Antoine, et d'ailleurs tu m'avais dit Antoine est un peu et un taiseux, donc je ne sais pas si ça va le botter. Et en fait, Antoine a été hyper enthousiaste à l'idée de faire ce podcast en écoutant le premier d'ailleurs. Donc encore merci à vous deux d'avoir partagé ce petit moment avec nous.
Bah, merci Fayol. Ouais, merci à toi. Je trouve que le projet est super et bravo. C'est chouette.
Super moment.
Salut Antoine, salut Caroline et salut à vous tous qui nous écoutez. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Bromance. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast. À bientôt.
Mukashimukashi.audio.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.